J'ai écrit un texte, mais je ne sais pas si je dois m'y fier ou me laisser. Allez, je vais laisser comme ça, juste pour.
Alors, je ne t'ai pas présenté complètement parce que tu es aussi imam, etc. Je te laisse te présenter.
Je suis Abdissalam Suki, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit dire. À toutes et à tous, je m'appelle Abdissalam, mon prénom, et mon nom de famille Suiki Abdissalam. Algérien de naissance et de jeunesse et Marseille d'adoption depuis déjà il y a plus de 32 ans, depuis le 1er juin 92. Voilà, je suis 4 fois papa et 3 fois grand-papa. Je suis de métier prof de maths, mais j'ai quitté l'éducation nationale en 2007, à l'époque de Sarkozy. Ça n'a rien à voir avec Sarkozy, c'est juste pour dater. C'est pas de la médisance, c'est juste pour dater. Voilà, et je collabore avec l'ISTR. Ça fait très longtemps que je suis dans le dialogue islamo-chrétien, dans le dialogue tout court, et particulièrement avec nos amis chrétien, d'où ma présence d'entre vous. Je suis théologien, j'ai fait un long cursus en sciences islamiques, en théologie musulmane, de 84 jusqu'en 91. J'essaie d'être imam. J'ai plus de facilité à dire théologien que imam. Imam, c'est une... Comment est-ce une ascèse, c'est une discipline, c'est une exemplarité à offrir aux autres. Je ne pense pas être à cette hauteur, surtout lorsque je conduis. Voilà. Mais je fais office d'imam lorsque les besoins et la demande... mes fêtes, donc je déambule un peu là, ça fait plusieurs mois que je suis sur Salon, Provence. Voilà, j'essaie de prêcher la bonne parole avec le temps qui court, ce n'est pas évident. Bon, voilà, et donc sur ce, je vais essayer de vous parler un peu du jeûne en islam, ma manière de voir le jeûne. C'est vrai qu'il y a une partie coranique que je peux, sur laquelle je peux faire signer Dieu, parce que c'est écrit dans le Coran. Mais au-delà, en fait, des versets que je cite, dès que je commence à interpréter, c'est moi qui signe. Je cesse de faire parler le ciel, et ça, c'est un exercice aussi nécessaire que salutaire. C'est très important, et c'est même pas par modestie, c'est la réalité. Personne n'a le monopole de dire Dieu ou d'exprimer l'intention de Dieu. Donc, lorsque je récite, je psalmodie le Coran, là c'est Dieu qui parle, mais dès lors que je commence à philosopher, interpréter, à expliquer, donc c'est moi, voilà. Et j'essaie de rester au plus près du texte coranique. Dans la sourate, la deuxième sourate, la sourate al-Baqara, la génisse, la vache, il est dit, ô vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé, c'est-à-dire les gens du livre avant vous. Un certain nombre de jours, afin de recouvrer votre piété originelle. Et ça, on le trouve très souvent dans le Coran, ce renvoi à ce moment initial, donc cet amour primordial, cet instant fusionnel entre Dieu et l'être humain. Dans le Coran, dans la septième sourate, Dieu dit, Et lorsque ton Seigneur prit des reins d'Adam, sa progéniture, sa postérité, dans un moment pré-éternel, pré-mémoriel, donc avant même que Dieu nous crée, c'est très imagé, quoi, c'est très parabolique, comme très souvent le cas dans le Coran. Et quand ton Seigneur prit des reins d'Adam, sa postérité et les filles témoignaient sur eux-mêmes, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et ils répondirent, « Si, tu es notre Seigneur. » Afin que vous ne disiez point le jour de votre comparution devant moi, que nous avons suivi nos ancêtres dans tous les préjugés qu'ils comportaient sur Dieu et sur l'homme. C'est du pareil au même presque. avoir une fausse représentation de Dieu implique directement une fausse représentation sur l'homme. Ou alors, vous prétendriez que vous étiez inadvertant, indifférent. Et c'est ainsi que je vous explicite mes signes afin de revenir. Revenir là, la'allakum tarji'un, revenir vers qui ? Revenir vers leur droit chemin, oui. Revenir vers Dieu, oui. Mais en faisant un détour par cette fitra, cette rectitude, cette excellence, cette impeccabilité initiale. Dans l'approche coranique, donc l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Donc Dieu ayant insufflé son esprit dans ce morceau de chair, mais c'est aussi parabolique, hein, c'est au risque de tomber dans l'anthropomorphisme, c'est pas dans le sens Dieu comme de la pâte à modeler a façonné l'homme et il a pris ses narines et a commencé à lui insuffler son esprit. Pourquoi je dis ça? Et je le dis souvent aux musulmans, et depuis le prêche, hein, c'est-à-dire je ratisse très large pour les provoquer un peu, je leur dis que Darwin, Charles Darwin, était plus respectueux, plus révérencieux de Dieu que nous, musulmans croyants. Je ne parle pas des chrétiens, à eux de... Quoique, j'ai bien lu Teilhard de Chardin, et j'ai vu les productions, les développements qu'il fait en la matière, à essayer de réconcilier créationnisme et évolutionnisme. On a dit, je dis, il n'y a pas lieu d'opposer, d'antagoniser ces deux thèses, en fait. Dieu nous a créés, mais comment nous a créés Charles Darwin, avec tout ce qui s'en est suivi, il a essayé de nous expliquer à nous, croyants, de la manière la moins anthropomorphique, la plus respectueuse de Dieu, n'est-ce pas, la manière dont la chose s'est faite. Donc, je le dis au passage, donc, après que Dieu ait spiritualisé cette chair, en insufflant de son esprit dans cette chair, eh ben cet esprit qui est porteur en vignette, en miniature, toutes les qualités de Dieu, mais borné par cette chair, par la condition humaine, eh ben, il est appelé par le Coran à passer tout son séjour, depuis T0 jusqu'au T du trépas, à essayer de revenir, en fait, à ce moment d'excellence, d'impeccabilité initiale. Il ne cherche pas quelque chose qu'il ne connaît pas. Il cherche le premier amour, en fait. Il est censé avoir cette nostalgie de cette perfection, d'où le fait qu'il est en quête de cette perfection. On ne peut pas être en quête de quelque chose qu'on n'a pas connu. Voilà. Et donc, si l'homme est infiniment perfectible, c'est que il a dû connaître ce moment d'impeccabilité, de fusion avec Dieu, cet amour fusionnel initial avec Dieu. Et donc après ce moment, et dans le camp, on trouve pas mal d'occurrences qui rendent compte de cette réalité. Et une fois l'avoir bien harmonisé, parlant de l'homme debout, argileux, oui, debout aussi, bipède. J'avais pas l'intention de dire ça, mais aussi parce que c'est lorsqu'il est devenu bipède et debout, est bien symétrisé, harmonisé, qu'il a mérité de recevoir ce joyau spirituel qui est l'esprit. Et donc la dignité de ce corps, elle dépend justement du fait qu'il soit le lieu, le gîte du joyau spirituel. Voilà. Sauf que ça ne se fait pas sans prix, en fait, parce que l'esprit, en dehors de la chair, il est libre. Et dans tout le Coran, 6226 versets, on ne trouve pas une seule occurrence coranique qui dit du mal de l'esprit. En revanche, l'âme, il y a une nette distinction dans le Coran entre l'esprit et l'âme. L'âme, c'est nefs, et l'esprit, c'est ruh. Voilà. L'esprit, donc ce ruh insufflé par Dieu en nous, jamais il n'est enclin à pécher, à s'éloigner de Dieu. Jamais, au grand jamais, on trouve ça dans le Coran. En revanche, là, Dieu nous dit, la manière même dont elle a été créée, elle portait en elle ces deux tendances, un enclin à la corruptibilité, un enclin, une possibilité de corruptibilité infinie, comme elle a cette propension à une infinie perfectibilité qui la fera, si elle veut, à l'égal des anges. Voilà. Donc, il est « Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. » Excusez-moi, ce n'est pas pour vous embêter que je lis les versions en arabe. Mais c'est juste pour les mettre en relief, en évidence, pour que je puisse leur appliquer un essai d'interprétation, de traduction. Et par l'âme, et celui qui l'a créé, Dieu, créé, en lui donnant cet enclin à la corruptibilité, en afsinoua masawa, donc au début, il a créé impeccable, ensuite, il a donné ces deux possibilités, d'où le fait qu'elle soit comptable, donc elle est libre. Il lui a donné le libre arbitre, donc elle a les deux possibilités. Donc dans son bios, contrairement au bios, le basing input output de l'informatique, donc dans sa vérité ontologique, n'est-ce pas, ben elle a les deux cases cochées. Donc elle peut aller très haut lorsqu'elle le veut. Et lorsqu'elle veut se donner les moyens, comme elle peut chuter, descendre, et elle ne trouvera pas de fond. Elle peut aller plus bas qu'il lui est possible, en fait. Voilà. Certes, qad aflaha man zakkaha, donc celui qui va la purifier, l'entretenir, ça, j'en parlais un peu dans le détail, mais juste je dis le verset. Donc, aura, accédera au salut. En revanche, celui qui se laissera entraîner dans le sens de la chair, des pulsions de la chair, des passions de la chair, eh bien, il sera dans la déception le jour où il comparaîtra devant Dieu. Voilà. Le jeûne, en fait, il s'inscrit dans ce sens avec une panoplie de moyens spirituels pour maintenir justement l'homme dans cette vocation d'être le lieutenant, tenant lieu de Dieu ici-bas, dans la bonté, la charité, aussi bien avec Dieu qu'avec ses semblables. J'ai oublié une notion à dire. Donc, dans le Coran, il est dit que tout être humain a reçu cet esprit. Donc, tous les hommes se ressemblent en ceci, qu'ils sont tous porteurs de cet esprit, qu'ils sont d'origine céleste, avec une tête plantée dans le ciel et les pieds sur terre. Et donc, le fait que tous ressemblent à Dieu les fait ressembler entre eux-mêmes. Voilà. D'où cette possibilité, doublée d'une obligation, d'une nécessité, d'aller les uns vers les autres pour partager justement ces faisceaux de rayons inéclipsables reçus par Dieu. Voilà, le fait d'aller vers l'autre, parce que moi, j'ai reçu ce faisceau lumineux, hein, incandescent. Et donc, mais depuis ma chair à moi, depuis mes coordonnées, et donc j'ai un accès à la vérité divine à travers mes coordonnées. Aucun discours sur la vérité ne se fait de nulle part, ou d'une manière ubique, de toutes les parts, d'une manière panoramique. Donc moi, je n'ai qu'un seul accès à cette vérité, et tout un chacun a un accès depuis son angle à lui, depuis son positionnement à lui, depuis sa manière à lui d'avoir reçu l'Esprit de Dieu. Et donc là, le fait d'aller les uns vers les autres, c'est justement pour mutualiser, hein, tous ces rayons, pour panoramiser, si vous voulez, cet accès à la vérité et faire nôtre les lumières des autres. C'est pas une courtoisie, le dialogue entre les hommes, les êtres humains, avec grand H. Mais ça reste toujours, je préfère dire les êtres humains. Dès lors qu'on dit, oh, même si on rajoute grand H, ça ne passe pas. Tu es d'accord, Patrice? Voilà, les êtres humains. C'est vrai, donc hein, il utilise ça pour garder jalousement cette communication entre eux et Dieu. Une fois, c'est juste pour l'anecdote, j'ai assisté à un prêche, pas loin de la plume, de l'association sur Bolzens, et j'en suis sorti très, très en colère. L'imam nous disait, avec une grande éloquence en arabe, disait que Dieu vous demandera des comptes pour les péchés de vos filles et femmes. Donc, les femmes dont vous avez les charges. Sœur. Et je me suis dit, c'est... Non seulement c'est pas vrai, parce que tout un chacun est responsable de ses actes, mais je me disais, donc, la femme, elle n'a même pas, même si, pour être punie, elle n'a pas le droit d'accéder directement à Dieu. Il faut qu'elle passe par l'homme, voilà, pour... J'ai trouvé ça très, très bizarre, en fait. Voilà, donc je disais que le jeûne, en fait, fait partie de cette panoplie, hein, de cette trousse de moyens pour spiritualiser l'être humain, et le maintenir dans son rôle, dans sa vocation de lieutenant de Dieu, de l'installer dans le rappel et le souvenir de Dieu. Et comme l'homme est oublieux, en arabe on dit insan, c'est l'homme, l'être humain, insan, l'annahu kathira nisyan, parce qu'il oublie trop. Il y a la même racine, en fait, insan et nisyan, c'est l'oubli. Et insan, c'est l'être humain. Voilà. Donc, le propre de l'homme, c'est l'oubli.
Ah oui.
Voilà. Là. Et donc, il a besoin d'être rappelé et d'installer dans le souvenir de Dieu. Il n'y a pas mieux que la prière, le jeûne, la zakat. Parce que la zakat, c'est vrai, c'est un acte de solidarité avec la précarité qui nous entoure, pour améliorer la qualité des relations humaines. Mais avant cela, c'est pour purifier l'âme de la personne qui donne, en fait. Le fait d'être dans l'élan du don, c'est déjà dans un intérêt, entre guillemets, égoïste, mais du bel égoïsme, si vous voulez. C'est pour me purifier davantage. « Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dans la 9e sourate qui a très mauvaise presse, il est dit, la sourate Tauba, repentir, prélève de leurs biens un impôt purificateur, la zakat, ça vient de la purification, afin de les purifier et d'améliorer la qualité des relations entre les pauvres et les riches. Voilà. Parce que le pauvre, il a un pourcentage de l'argent du riche, et donc plus le riche s'enrichit, lui aussi, sa quote-part, il n'est pas dit qu'il doit rester toute sa vie pauvre, mais en attendant de sortir de la précarité, il a déjà un droit bien fixé, 2,5% de le 1/40 de la richesse du riche. Moins de biens, plus de liens. Voilà l'idée, si vous voulez, de... Même la prière, au-delà de ce moment ascensionnel, on va dire, qui permet l'ascension de l'esprit du croyant vers Dieu, ce moment aussi de rappel, de fusion avec Dieu, de confession, de recueillement, voilà, de retrait du chaos, du brouhaha, de l'ici-bas, pour se ravitailler, pour se réapprovisionner spirituellement, pour mieux vivre dans la société, c'est un moment de rappel, comme le dit le Coran, « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. » Certes, la prière, elle vous maintient loin de la turpitude, du blâmable, de tout ce qui n'est pas bien, mais le plus important dans la prière, c'est de vous installer dans le souvenir de Dieu, dans le rappel de Dieu, voilà, d'ouvrir cette de vous ouvrir sur la transcendance et de vous permettre cette connexion très intense avec Dieu. Et donc, le jeûne, il s'inscrit dans cette démarche, en fait. Et dans le long paragraphe de la sourate Al-Baqara, il s'étale sur une page et quelques. En fait, c'est un long paragraphe fait de premier, deuxième, troisième, quatrième. Le quatrième, on n'en parlera pas parce qu'il traite un peu du rituel. Voilà. Mais les trois premiers paragraphes concernant le pèlerinage parlent vraiment des objectifs, des buts, des finalités spirituelles du pèlerinage. Donc le premier, on vient de le voir, afin de recouvrer votre piété originelle. Vous dégagez un peu l'image qu'il y a en vous, voilà, à la ressemblance de Dieu, parce que à coup de chute, d'inadvertance, d'égoïsme, l'homme finit par développer autour justement de cette âme, de son âme, de son intériorité, une enveloppe de rouille, hein, qui l'enclave, qui obscurcit ses horizons, si bien que ces capteurs qui sont censés recevoir la lumière de Dieu dysfonctionnent, hein, dit Gustave Thibon dans le titre, depuis le titre, c'est un livre magnifique, un théologien protestant un Toulousain, un autodidacte, lui, il n'a pas fait le séminaire, lui, il n'a pas fait, mais c'est quelqu'un de, tout ce qu'il écrit, c'est vraiment des pépites, il dit, un regard pour la lumière. Très souvent, l'idée, c'est de dire, on cherche la lumière. Et lui, il inverse, en fait, la lumière, elle est là. Quand est-ce qu'elle s'est absentée? Elle est en nous, elle est autour de nous. Elle est tellement omniprésente qu'elle a fini par nous omnibuler, par nous éblouir. Voilà. Et donc, au lieu d'aller chercher quelque chose qui existe en fait, il faut retravailler ses capteurs les capteurs de cette lumière, retravailler l'œil de son cœur pour recevoir et pour capter la lumière de Dieu, l'amour de Dieu. Le Coran, il fait sienne une théologie de l'œil spirituel, mais qui a précédé le Coran. Et c'est sans surprise, parce que le Coran ne prétend pas redécouvrir, si vous voulez, l'aspirine spirituelle. Il s'inscrit, il le dit souvent, il le répète, qu'il s'inscrit dans la lignée des traditions religieuses. Vous voyez, j'hésite parce que je n'aime pas dire les religions. Pour moi, la religion ne se conjugue pas au pluriel. Il y a une seule religion auprès de Dieu. Après, elle s'est déclinée sur les contextes et sur les moments de l'histoire. Une parole qui ne se contredit pas, en fait. Et donc, la théologie qui a précédé le Coran, moi je le vois chez les non-musulmans, il y a trois oculus. Un oculus carnis, donc un œil de la chair, donc nos deux yeux. Un oculus rationis, donc c'est l'œil de l'intelligence. Mais c'est loin d'être suffisant, parce qu'on reste limité par les chronotopes, donc les éléments spatio-temporels. Chrono, c'est l'espace, top, c'est topos, c'est les endroits. Et par les caractéristiques physico-chimiques et tout ça, donc on ne dépasse pas la physique pour aller au-delà de cette physique, pour aller à la métaphysique et aux réalités surnaturelles. Donc on a besoin d'un oculus fidei. Et c'est cet oculus fidei, justement, qu'on est censé travailler, débroussailler, dépoussiérer, justement, pour offrir à notre intériorité une captation, si vous voulez, maximale des provisions de Dieu, des lumières de Dieu, à même de nous maintenir dans notre vocation à l'image de Dieu et ami de Dieu. Voilà. Et donc le jeûne du Ramadan a comme objectif, comme la prière, comme la zakat, comme le pèlerinage, et comme tout acte, en fait, qu'on fait pour plaire à Dieu. Parce que là, si vous voulez, c'est les grandes stations de ravitaillement. Mais disait le prophète, « Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura » Dieu a fait que la terre soit pour moi et les croyants un grand lieu de culte. Voilà. Watahora est tout ce qu'elle contient est purifiant. Il n'y a pas que l'eau qui purifie, est utilisée pour les ablutions avant la prière. Tout ce que la terre contient, c'est un élément de purification, d'où le fait que lorsque le musulman ne trouve pas l'eau, ou qu'elle est rare, il n'a pas le droit de l'utiliser parce que il vit dans un contexte de pénurie, donc il peut faire des ablutions sèches, symboliques, donc il touche la terre, une fois ses mains, une deuxième fois son visage, et ça y est, et il fait la prière sans avoir, voilà, pour pas aggraver la pénurie on l'appelle atayammum. C'est valable aussi pour les vieilles personnes qui ne peuvent pas toucher l'eau, ou les malades, les gens brûlés, tout ça. Mais sans ça, sans ces situations extrêmes, le simple fait de ne pas aggraver les pénuries en eau, donc on peut recourir à cette ablution symbolique. On l'appelle l'ablution sèche. Voilà. Deuxième paragraphe, je vois la montre.
On est à Marseille.
Ouais, mais je préfère quand même rester dans les clous comme ça. On favorise le partage et ce que j'aurais à dire en plus, je le dirai sur le mode de l'interaction. C'est mieux peut-être. Juste deuxième paragraphe. Le verset. « Faman shahida minkum ash-shahra falyasum » وان كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. اي celui d'entre vous qui se trouve quelque part, pas en voyage, parce que le voyageur va être dispensé du jeûne. C'est donc celui qui se trouve dans une situation de sédentarité, on va dire, hein, pas en voyage, qu'il jeûne ce mois du Ramadan. En revanche, ceux qui sont en voyage ou malades, qu'ils reportent leur jeûne à des jours meilleurs, de bien portance. Et avant, il dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu » le mois du Ramadan, pendant lequel a été révélé le Coran. En fait, révélé une partie, le commencement de la révélation du Coran a commencé par un mois du Ramadan. Le Ramadan, en fait, c'est un mois. C'est le septembre lunaire, en fait. C'est le neuvième mois du calendrier lunaire. Voilà. On fait un glissement. L'engagé, on dit « je fais Ramadan ». Ça ne se dit pas « je fais le jeûne ». Le Ramadan, c'est un mois. On peut pas, ça n'a aucune signification. Même lorsque nos enfants font des jours surérogatoires en dehors du Ramadan, ils disent quand même « je fais Ramadan », alors qu'ils sont loin du mois du Ramadan. Voilà, c'est un abus de langage, c'est une déformation langagière. Voilà. C'est le jeûne. Pas Ramadan, c'est un mois. C'est pas une pratique. En fait, toujours ces glissements. La fête du sacrifice, la fête du mouton. Alors que ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Voilà, on voit bien que la chair prend le dessus sur l'esprit. Donc, le mois du Ramadan, pendant lequel a été révélé le Coran, j'ai expliqué une partie du Coran, la première partie en fait. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Donc il, et là, si vous voulez, il y a une confusion. Il parle de شهر رمضان, le mois du Ramadan, et lequel mois a accueilli la révélation coranique. Il dit فيه هدى للناس. Il contient une orientation, une guidance pour les hommes. C'est qui? C'est le Coran ou c'est le moi? Vous voyez, c'est exprès. Donc, parfois, la confusion est maintenue exprès pour dire que, justement, le Coran, en lui, c'est le principal, c'est le verbe, c'est la parole de Dieu. Mais elle est d'autant plus parlante, percutante, elle laisse d'autant plus son empreinte que lorsqu'on se trouve pendant le mois du jeûne, parce que on se vide de toutes les préoccupations de la chair, donc on exerce un embargo sur les hormones pour favoriser un peu les neurones et muscler un peu l'être lumineux en nous. On a vu tout à l'heure dans l'anthropologie coranique que l'âme, elle a deux penchants, un enclin vers la corruptibilité et une propension vers la perfectibilité. C'est comme si on est habité par deux personnes, en fait. Une personne enténébrée et une personne enluminée. Un maître spirituel, on a demandé lequel finira par avoir le dessus sur l'autre. Il n'y a pas de mauvaise question, en fait. Et le maître de dire: celui à qui tu donnes le plus à brouter, celui que tu nourris le plus. C'est, je ne sais pas si l'image, elle est... Voilà. Et on trouve plein de paroles prophétiques dans ce sens. Le prophète nous dit, en fait, le cœur du croyant, l'intériorité du croyant, elle a deux proximités. Une proximité satanique et une proximité angélique. Pour dire une proximité au mal, à la méchanceté, au faux, au mensonge, et une proximité au vrai, bon, juste, vertueux et tout ça. Et toute proximité avec le vrai, le bien, le beau, le juste, l'établit dans l'espoir, l'espérance et l'optimisme, et elle corrobore en elle ce rayon de Dieu, donc cette fitra, donc cette nature impeccable, originelle et originale. Voilà. Tout lien, il a pour fonction, toute proximité avec ce monde angélique, à travers le don, à travers la bonté, la vérité, la science, voilà. Elle corrobore en nous cette propension vers la perfectibilité, et elle nous ouvre, c'est très important, elle nous ouvre les perspectives, donc l'espérance, l'espoir, on a plein de projets, plein de... En revanche, l'interrupteur du mal, donc, qui est la proximité du mal, qui se fait via le péché, via l'inadvertance, l'égoïsme, eh bien, elle nous ouvre sur ce monde ténébreux. Et donc, quand on est pessimiste, on broie du noir, on ne voit que dalle, diront les Marseillais. Ce principe divin en nous, il s'éclipse, il s'étiole, il s'atrophie. Notre hadith aussi, il va un peu plus dans le détail, très bien imagé. Il nous dit en fait, le cœur, donc l'intériorité du croyant, est en permanence exposé aux épreuves. Les épreuves, dans le Coran, ce n'est pas que la maladie, la pauvreté, l'adversité, tout ça, ce sont des épreuves, mais les épreuves aussi par le faste et la prospérité qui sont autrement plus redoutables que les épreuves par l'étroitesse et l'adversité et la maladie. Parce qu'on dit, je me résigne, qu'est-ce que je fais ? Sinon, faire un retour vers Dieu, le prier, lui faire des explications pour qu'il me soustrait de ces moments ô combien difficiles. Mais quand je suis dans la prospérité, la prospérité me fait perdre la tête. Donc j'ai besoin davantage de ressources, en fait. Et il y a un impôt sur cette prospérité, l'impôt pour me solidariser avec mon entourage, pour essayer de résorber, d'absorber la précarité. Ça, ce n'est pas évident. Ça, c'est un choix. Le premier, ce n'est presque pas un choix. Je suis obligé de me résigner. Mais le deuxième, donc, il me faut beaucoup de leviers au moins, de ressources pour être solidaire, pour m'engager en faveur des indigents, des pauvres et de toute la vulnérabilité qui m'entoure. Faites-moi revenir. Je suis en train de m'éloigner. Mais encore heureux aujourd'hui, ça m'est arrivé, c'est la première fois. Et souvent, c'est... La phrase d'avant, j'étais en train de... C'est un exercice, hein, je vous... Ah, oui, les épreuves. Les épreuves, mais pourquoi les épreuves ? Oui, le hadith. Ah, allez. Donc, le prophète nous dit que le cœur, l'intériorité du croyant, elle est en non-stop, en permanence, exposée à ces épreuves. J'étais obligé d'expliquer un peu les épreuves, parce qu'on a une idée, même chez les musulmans, toute reçue, que l'épreuve est réductible à l'adversité, à la maladie, au néfaste, et pas du tout au faste, à la prospérité. Bah, très souvent, les gens, quand ils sont bien portants, c'est Dieu qui m'a donné un acanthe, il est satisfait de moi, et là, c'était un acanthe. C'est pas vrai, c'est une épreuve aussi comme l'autre. Et c'est un lieu vraiment très dangereux, cette manière de dire que Dieu est avec moi, la preuve, je suis beau, je suis jeune, je suis, je suis pas malade. Voilà. Ce qui sous-entend que l'autre qui est malade, donc il a été rejeté par Dieu, donc c'est un indicateur de courroux et de colère divine. Et ça, il y a un verset mais très percutant, mais là je ne vais pas oublier mon hadith, hein, juste pour ne pas oublier le verset. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي. Quelle sottise, si vous voulez, nous dit le Coran, cet être humain, comment il peut être sot. Lorsque Dieu le met dans la prospérité, le dote en faveur, et il s'écrit, il passe à la conclusion, hâtivement, Dieu m'aime. C'est la signature de l'amour de Dieu, je l'ai dans ma poche. En revanche, le même, quidam, c'est pas Dieu qui dit quidam, l'insan dit l'insan, moi, c'est moi qui dis. Vous voyez l'interprétation? Lorsque Dieu l'éprouve, le met dans l'étroitesse, dans l'adversité, il s'écrit pour dire « Dieu me rejette ». فأما إنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن la première وأما إذا ما ابتلاه donc les deux c'est l'épreuve ابتلاه ابتلاه le même verbe qui est utilisé dans le faste et dans le néfaste فأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه donc il a mis dans l'étroitesse des biens il ne gagne pas bien sa vie donc il boucle très difficilement les deux bouts du mois ما إذا ما ابتلى فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني أي سكري Dieu m'a humilié m'a rejeté et ne veut pas de moi كلا il n'en est rien donc les deux hypothèses sont des hypothèses farfelues les deux formules sont farfelues كلا et c'est cette manière nous dit la suite du verset qui pousse l'homme à l'excès à l'exagération كلا Je suis obligé de revenir pour c'est la vitesse qui m'aide. أما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا. Il n'en est rien et c'est cette manière de voir ce préjugé qui vous fait commettre l'irréparable et il cite l'irréparable. Vous n'êtes pas bienveillant avec l'orphelin, l'atkrimon aliatim. Vous ne vous incitez pas mutuellement, et ça c'est très récurrent dans le Coran. Donc l'engagement en faveur des pauvres n'est pas l'apanage des riches. Mais les pauvres aussi sont censés être dans l'engagement. Aller chercher les riches et les inciter pour se solidariser d'avec. C'est pas parce que tu es pauvre que tu t'en es sorti d'affaire. Donc il y a cette incitation. Pas l'incitation, bien sûr, il faut respecter les formes et tout ça. Là, c'est cru. Après, il y a l'art et la manière de le faire. C'est pas parce que je suis riche que tu viens me réveiller à 6 heures et commencer à m'insulter et me dire tout le mal que tu penses de moi. Voilà, il y a une forme. Voilà. Mais il n'empêche que tout le monde est censé être dans cet engagement pour absorber cette vulnérabilité, cette précarité. C'est un fondamental, c'est un universel coranique. Et c'est ça aussi qui vous fait bouffer l'héritage des uns des autres. N'est-ce pas ? Voilà, et ça continue à se faire. Cette tendance à... Heureusement qu'il y a la présence de l'État qui s'immisce dans le partage de l'héritage, mais sinon très souvent dans les pays d'origine, ici moi, je ne parle pas d'ici, ici il y a les lois qui garantissent ce partage de l'héritage, mais dans les pays d'origine, c'est très problématique pour les femmes. Donc on use de tous les subterfuges pour que l'héritage reste patrilinéaire. Voilà. En épousant déjà d'une manière, en adoptant l'endogamie pour pas que les biens de la famille aillent ailleurs. Voilà. Et après coup, ça c'est la prévention. Mais après, quand ça arrive, on essaie de faire en sorte que l'héritage n'aille pas, ne sorte pas de la famille. Je reviens à mon hadith et je termine sur ça parce que il est 20h. Je vous passe la parole. Donc tout cœur est exposé à une interminable file d'épreuves. La vie est épreuve, nous dit le Coran. Wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitna wa ilayna turja'un. Et certes, nous vous éprouvons par le faste et le néfaste. Toute la vie et c'est vers nous que vous reviendrez pour rendre des comptes. Et il dit, tout cœur qui cède devant la tentation, qui cède devant l'enclin de son âme, devant son égoïsme, eh bien, il se verra pointé, sculpté un point noir dans l'écran de son cœur, si vous voulez. Donc le cœur est censé nous avoir été fourni au début écran transparent, n'est-ce pas ? Et donc chaque péché, chaque acte d'égoïsme, chaque baisse de garde devant l'épreuve, dans les deux sens, eh bien, il y a un pixel. Donc notre écran se pixelise. Pour rapprocher un peu. Voilà. Et de péché en péché, de chute en chute, le cœur finira par s'obscurcir, s'assombrir, s'enténébrer, et tout l'écran devient noir, tel des quantités de nuages qui se superposent les uns sur les autres. Asbaha, morbadan, morbadan, c'est à l'image des nuages. Kelkuzi mushakhia la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, à l'image d'un verre renversé, donc pas à l'endroit, c'est pas, qui ne contiendra, qui n'aura plus la capacité de recevoir les provisions de Dieu et qui atteindra ce seuil quasi irréversible de confusion entre le bien et le mal. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, donc il ne saura pas distinguer entre le bien et le mal. Ma'ruf, c'est le convenable, et le munkar, c'est le blâmable. Voilà. Et ça vient pas une seule fois, c'est un long cheminant, exactement comme l'autre possibilité. Wa ayyuma qalbin ankarah, tout cœur qui tiendra bon devant la tentation, qui ne baisse pas les bras, qui fait acte d'endurance, de résilience, de bravoure devant cette épreuve, dans les deux sens encore une fois, eh ben, un point blanc enlumine son cœur. Voilà. Et de point lumineux en point lumineux, jusqu'à son cœur deviendra transparent, consistant, transparent, comme s'il y avait une chandelle. Fihi mithlu siraj yuzhiru. Et il ne sera jamais inquiété, aucune calamité, aucune manipulation n'aura raison de lui jusqu'à trépas, jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu. Voilà. Et donc, si vous voulez, ce travail pour reconquérir ce discernement original perdu, cet Éden, si vous voulez, perdu, notre terre promise, à nous, c'est cette terre intérieure que nous avons tout ou partiellement perdu, donc, et ces moyens que sont la prière, le jeûne, et ces instruments offerts par Dieu à l'homme. L'homme connaît justement les vrais besoins de l'être humain. Il est le seul à pouvoir pourvoir à ses vrais besoins, pas les besoins factices, pas les besoins superficiels, renouvelables, qui à chaque fois en ont satisfait un, tel une pendule, n'est-ce pas ? L'ennui s'ensuit et on vise un autre besoin, les besoins renouvelables, n'est-ce pas ? Non, Dieu qui nous a créés, « Ala ya'alamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir » ne connaît-il pas sa créature humaine ? N'est-il pas l'infiniment subtil al-latif, l'infiniment expérimenté de sa créature ? C'est un verset coranique. Donc, c'est lui seul. Moi, je l'ai expérimenté, si vous voulez. Et je termine sur ça. Promis, Patrick. Sur le pèlerinage, en fait. Moi, le pèlerinage, il m'a fallu du temps pour le faire. Et je l'ai fait parce que c'est une obligation, pour me dégager d'une corvée. Dieu m'a dit, je n'y voyais rien comme spirituel. Mais je l'ai fait pour me dégager. Mais honnêtement, une fois, pourquoi ? Parce que j'ai des préjugés contre les gouverneurs de l'Arabie Saoudite. Je ne voulais pas me taper leur excusez-moi le terme, leur gueule, avec tout le mal qu'ils font répandre sur la planète. Je ne voulais pas du tout avoir affaire à eux, mais j'étais obligé, à 50 ans, de le faire quand même. Il faut le faire, si on veut le faire, bien sûr, si on décide de le faire, en étant en bonne santé. Et pas après avoir atteint la sénilité, la décrépitude et constituer un fardeau sur les autres. Mais c'est vrai, il y en a qui ne le font pas, qui ont leur vie, et en fin de vie, lorsqu'il est à mobilité réduite, n'est-ce pas, incapable, même pas capable de faire sa prière, donc il décide pour... Parce que c'est un sauna le pèlerinage, on le dit, hein, c'est une sorte de hammam pour laver mes os, les os. Alors, je vais au pèlerinage pour laver mes péchés. Il y a cette déformation, si vous voulez, très réputée chez les nôtres, et il va embêter tout le monde. Donc ni lui, il fera son pèlerinage, ni les bien portants, les pauvres, parce qu'ils s'occuperont de lui, ne pourront faire correctement leur pèlerinage. Eh bien, je l'ai fait, mais je vous jure, je suis resté une dizaine de jours, je n'ai pas vu le temps passer, j'étais ravi en moi-même, c'était un moment extatique, en fait. J'étais dans le ciel, et c'est là où j'ai compris qu'en fait, ce n'est pas à moi de décider laquelle spiritualité correspond à mes besoins, n'est-ce pas ? Voilà, parce de loin, moi, j'ai jugé le pèlerinage quelque chose de superflu. Il n'en était rien, mais c'était une dizaine de jours d'une intense spiritualité, d'une expérience indicible, hein, si bien que lorsque je suis revenu une bronchite, là-bas, ils gèrent très mal le chaud et le froid, un milieu désertique, très chaud, et dans leur palace, parce que tous les hôtels sont 5 étoiles, et, hyper climatisés. Donc dès qu'on sortait, non, on a sorti un peu, mais lorsqu'on revenait vers ces hôtels, c'était le choc thermique, quoi. Donc on transpirait, tu rentres avec un climat 15 ou... Donc je suis revenu après avoir chopé toutes ces bronchites et tout ça. Je suis allé chez mon médecin, un jeune homme. On n'a jamais parlé de religion, on se respectait. Et bien là, je me suis lâché pendant un quart d'heure. Lui, mesquine, le pauvre, il était comme ça, les yeux larmoyants, à écouter mes délires. Voilà, voilà, j'ai pas eu un répit, si vous voulez, une trêve. Dès que j'étais obligé d'aller le voir pour me faire prescrire quelques médicaments, mais le pauvre, il a pris sur son compte, mais il a apprécié, il n'a rien dit. Bon, voilà, je vous raconte ma vie. Oh, ben, c'est l'avantage. Hein.
Bel itinéraire, hein, un itinéraire spirituel de vertu exigeant. Qui est fondée en fait sur une première fusion originelle avec l'amour de Dieu et qui est en quête de retrouver cet état d'origine. Donc par des moyens, la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, l'aumône. Oui, c'est inspirant. C'est inspirant. Il y a beaucoup de similitudes avec notre itinéraire spirituel. Voilà. Et il y a aussi quelques distinctions sûrement. À vous d'entrer dans ce partage avec Abdeslam.
Désolé d'avoir été décousu.
Non, c'était... On voyait bien l'itinéraire, là, tu nous conduisais...
Le pèlerinage, c'était donc à la Mecque.
Oui. Voilà. Oui, à la Mecque.
Et par contre, le jeûne, c'est pas seulement Ramadan, parce que vous pratiquez le jeûne, mais à n'importe quel moment de l'année, individuellement, sur des jours particuliers. C'est ce que j'ai compris par rapport à mes amis musulmans que je côtoie.
Oui, des jours particuliers de préférence, mais sinon, ça fait plus d'un mois que je jeûne avant le ramadan. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien.
C'est pas pour s'entraîner.
Non, non, du tout. Non, non, c'est pour mon bien-être, parce que...
C'est impossible de...
Il a trop tardé pour moi, avant ça. Et je commence à avoir la chair, l'étau de la chair prendre, asphyxier mon joyau spirituel. Donc, j'ai commencé avant la date, c'était avant le 11 mars. Il y a très, très longtemps. Voilà, il faut juste que j'observe quelques jours entre les deux pour distinguer l'obligatoire de l'individuel.
Mais vous pouvez jeûner toute l'année.
Toute l'année, à condition de ne pas se faire du mal, que la santé n'en pâtisse pas. C'est important aussi. Voilà. Moi, c'est vraiment le contraire. Je suis d'autant plus bien portant que je jeûne. Mais vraiment. Mais surtout, il faut dire aussi que les journées hivernales sont courtes. Hein. Donc on se la joue un peu. Homme de Dieu en hiver, mais n'est pas homme de Dieu qui le veut en été. L'été, c'est de 3h du matin jusqu'à 21h. Pas évident. Là, c'est quasiment de 6h jusqu'à 6h. Voilà. Et les journées sont douces, c'est pas trop chaud, c'est pas...
Stéphanie.
Moi, j'ai une question par rapport à la miséricorde. Parce que là, vous parlez des points noirs. C'est-à-dire quand on est dans le péché et qu'on accumule des points noirs sur son cœur, est-ce qu'il y a un moyen de les enlever? Alors déjà, est-ce que le jeûne, le pèlerinage permet d'enlever ces points noirs? Ou est-ce que... Il y a une manière aussi d'expérimenter la miséricorde de Dieu.
Ça nécessite un pavé comme ça. Vous pouvez utiliser votre cotisation professionnelle. Hein. On le fera sur l'année. Non, je plaisante. Sinon, je vais commencer à vendre les indulgences, Francis. Non,
on en est sorti.
Et voilà, nous on reprend. On reprend. Ben, je l'ai dit, je suis sincère parce que mais je vais essayer de schématiser, hein, d'être un peu. Oui, bien sûr, rien n'est irréversible et ça aussi c'est très important de le souligner. À chaque fois que Dieu nous rappelle au retour vers lui, donc vers le droit chemin, vers cette sainteté, il nous dit qu'il ne faut pas désespérer, il ne faut pas se décourager. Celui qui revivifie une terre sèche est capable de revivifier votre terreau intérieur asséché par l'égoïsme et par l'inadvertance et par... Bien sûr qu'il y a possibilité. Et les mots coraniques sur ces thématiques sont très clairs. Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Aqim as-salata tarafi an-nahari wa zulafa min al-layl. Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. C'est la circonstance de la révélation de ce verset, mais juste pour vous dire entre guillemets, moi je ne crois pas trop aux circonstances de la révélation. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas cette anecdote, cette circonstance humaine, le verset serait quand même révélé. Voilà. Mais c'est, j'utilise, si vous voulez, ces petites histoires pour rapprocher ces idées abstraites. Hein. Parce que l'exemple clarifie, met davantage de lumière sur les versets. On raconte qu'un commerçant musulman à l'époque du prophète vendait ses trucs et sa marchandise. Et voilà qu'une belle femme se rapproche de lui pour acheter une marchandise. Et lui, elle l'a tellement attiré qu'il a fini par lui coller un bisou à la sauvette. Il l'a embrassé à la sauvette comme ça. Voilà. Après, il a eu des remords et il s'est confiné chez lui. Il attendait une... Il est d'abord allé au prophète s'enquérir de sa situation, se confesser et voir qu'est-ce qu'il devrait faire pour justement enrayer ce tatouage, ce point noir. ce pixel. Et le prophète de pas répondre parce qu'il n'avait pas la réponse. Et justement, il reçoit cette révélation, ce verset coranique. « Aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafa min al-layl » Abonde dans la prière les deux extrémités de la journée et une partie de la nuit, car certes, innal hasanat yudhibna sayiat, car certes, ces belles œuvres, ce bel agir a pour effet de gommer, voilà, d'effacer ces fautes mineures. Je mets une parenthèse parce qu'après on va parler très rapidement d'un autre type de faute, sinon c'est la facilité. Je prends l'argent d'un autre, je le dépossède de son bien, après je fais un repentir, après lui avoir restitué son bien, pas avant, n'est-ce pas? Enfin, on parle des péchés entre moi et Dieu. Là, Dieu, il est très ouvert, très miséricordieux. Il suffit d'avoir ce mouvement cardiaque, ce mouvement du cœur, pour que Dieu nous accepte notre repentance. En revanche, quand c'est horizontal, il faut passer, il faut faire le détour par la personne à qui on a fait du tort, n'est-ce pas, lui restituer son bien ou demander pardon s'il ne s'agit pas de quelque chose de pécunier, de matériel, de lui demander le pardon, n'est-ce pas. Et le pardon de Dieu est subordonné au pardon de la personne, en fait. C'est la gravité, si vous voulez, c'est des péchés d'entre les hommes. Entre l'homme et Dieu, c'est autrement plus facile que lorsque le péché est commis entre l'homme et l'homme. Il faut vraiment insister, pas sur le mode « tu me pardonnes !» Non, mais voilà, essayer d'être dans la bienveillance, dans la sincérité, de reconnaître le tort commis à l'encontre de son voisin, et espérer que Dieu lui pardonne en conséquence. Voilà. Et bien sûr, ça aura comme effet d'effacer, ce ne sont pas des tâches indélébiles. Voilà. Ceci dit, le Coran nous dit que dans les péchés, il vaut mieux d'être un peu réactif. Il ne faut pas être dans la procrastination, à reporter au calendrier grec le repentir, parce que il se peut que on arrive à ce seuil justement de confusion, qu'on perd le sens du bien et du mal, et on ne pourra même pas. C'est pas que Dieu n'accepte pas, mais c'est nous-mêmes qui ne pourrions même pas nous rendre compte de nos erreurs, parce que notre tableau s'est obscurci, et on aura perdu les traces du retour, en fait. Le mapping, le maps ne fonctionnera plus. Voilà, on ne pourra plus revenir justement vers Dieu parce que derrière nous, on a fait le chaos. Voilà. D'où le fait qu'il est très recommandé d'accélérer un peu le retour vers Dieu pour maximiser, si vous voulez, ses chances d'effacer ce péché. En fait, c'est très symbolique. Le péché, en fait, c'est ce que je ressens en moi. Ce n'est pas forcément des... Voilà, un malus et un bonus. comme chez AXA ou chez Matmut. Voilà. Mais c'est bien de le dire comme ça, parce que les gens, ils ont besoin d'images, si vous voulez, pour les percuter. Mais pour moi, effacer, c'est surtout dans moi, parce que moi, ma manière de voir cette table qui contient mes péchés et mon malus et mon bonus, elle est liée à mon intériorité, en fait. J'efface ici, elle s'efface là-bas. Donc il faut que vraiment je me transforme moi, et par voie de conséquence, mais d'une manière, c'est à l'image de la mécanique quantique, c'est à temps réel, l'autre tatouage, si vous voulez, sera en même temps effacé de la table de Dieu. Voilà l'idée, si vous voulez. Mais c'est réversible, bien sûr. Et aucun péché qui ne soit pas pardonnable en islam. Aucun. Il n'y a pas de limite. Islam, je dis en islam, mais je pense que dans les autres traditions aussi. Mais moi, je suis invité pour parler de l'islam. Voilà. Pour ne pas le prendre que c'est... Voilà. C'est important de le
souligner. Tu disais, Abdeslam, que ce moment de jeûne, c'est un lieu de révélation, où la personne perçoit mieux le Verbe de Dieu. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il parle davantage aux personnes qui prennent le moyen de travailler leur intériorité?
Merci, Patrice, pour cette belle, question. Toutes les questions sont belles. Pourquoi je dis belle? Parce qu'en fait, tout à l'heure, à défaut de temps, je ne suis pas allé jusqu'au bout dans, dans l'explication. L'explication, c'est trop, prétentieux. C'est de vivre, si vous voulez, ce moment, ce paragraphe coranique. Donc, le mois du Ramadan pendant lequel la révélation, le Coran a été révélé, il contient cette guidance, et on a dit que c'est confus. Est-ce que c'est le Ramadan? Est-ce que c'est le Coran? En fait, c'est les deux. C'est le Coran qui dévoile d'autant plus ses lumières et ses trésors que lorsqu'on est en état de jeûne, en fait, parce qu'il continue. « Wa bayyinatin minal huda » Il dit « Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an »« Fi hudan » Donc, il contient une guidance. Et les détails « Wa bayyinatin minal huda » Donc, « huda », c'est répété deux fois. Le « huda », c'est la guidance. Et les détails de la guidance et du discernement. C'est comme si le Coran, en dehors du Ramadan, il jette des faisceaux lumineux pour éclairer les grands boulevards et mon intériorité. Lorsque je suis en état de jeûne, cette lumière, elle va s'introduire dans les plis. Et les replis, les coins, et les recoins les plus retranchés, les plus. Ah ben Freud, il appelait ça l'inconscient. Sauf que lui, il a détecté l'inconscient. Il déconstruit, mais après, il ne sera pas réédifié, en fait. C'est pas son, c'est un homme. Mais le subconscient, bien sûr, c'est toute cette partie en nous qui nous pousse, qui nous motive, qui est inaccessible en fait. Il y a la motivation, la sincérité dans la spiritualité musulmane, c'est une denrée rare. Les anciens disent, si Dieu me permet de faire deux rak'as, donc deux rak'as, c'est deux cycles de prière, voilà. Sincèrement, je garantis le paradis. Parce que c'est tellement confus en moi lorsque je fais les choses. Est-ce que là, je suis en train de parler pour plaire à Dieu ou pour forcer l'admiration du public? Je ne le saurai jamais. Ne m'enlève-moi. Je suis obligé de le faire. Je suis obligé. Mais jamais je ne pourrais prétendre que la partie humaine en moi, égo, tout ça, elle est écrasée. C'est pas vrai. Je ne peux pas le dire. C'est pas. Voilà. D'où le fait que justement, ces doses de spiritualité, ces manières spécifiques recommandées par Dieu, que sont le jeûne, le pèlerinage, c'est la prière, voilà, en des moments bien espacés de la journée, n'est-ce pas? Parce que Dieu connaît vraiment ces soubassements qui soutiennent notre intériorité, et lui seul a cette capacité de les pourvoir en nourriture spirituel. Voilà. Et pas que le jeûne. Le jeûne, le Coran nous parle aussi après un premier sommeil, le dernier tiers, si vous voulez, de la nuit. Inna nashi'at al-layli hiya ashadd wat'an wa aqwa muqila. Avant de venir, j'ai visité plusieurs traductions, Jacques Berck, plusieurs en fait, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils disent, parce qu'en arabe, c'est très percutant. L'effusion de la nuit, l'effusion de la nuit, elle laisse plus d'empreintes dans l'intériorité du croyant, suite à la lecture, en fait, suite à la lecture du Coran. Voilà. Il y a des moments propices, le jeûne, le dernier tiers de la nuit. Donc cette lecture, après un premier sommeil, elle a pour particularité, singularité, de laisser plus d'empreintes, n'est-ce pas? Elle vulnérabilise, elle ébrèche plus l'imperméabilité du cœur pour laisser Dieu s'introduire. Dieu ne s'introduit pas dans un cœur autosatisfait, autosuffisant, complet, parfait. L'haltérophilie spirituelle, bien musclée. Donc, pour s'introduire Dieu, il a besoin d'une province en nous, et donc que le cœur soit ébréché. Et cette lecture, justement, a cette force de percuter l'âme, hein, et de laisser très profondes les empreintes de Dieu en nous. Et nanashi'at al-ilahiyya ashadd wat'an. Je vais vous faire l'économie de vous parler des sonorités, parce que, honnêtement, il y a une sonorité, parce que les sèmes fonctionnent corrélativement avec les lexèmes, les unités de lexique. Donc les sèmes, c'est les unités de sémantique, de sens. Les lexèmes, c'est les unités de lexique. Et les phonèmes, donc les sonorités. C'est. D'où le fait que les musulmans croient que le Coran n'est pas qu'inspiration. Il est révélé au mot près, à la virgule près, à la ponctuation près, à la longueur de voyelle près. C'est vraiment, c'est notre foi, en fait. Voilà. Et donc, la manière de psalmodier le del sans voyelle, le pa sans voyelle, et le qa sans voyelle, ça, je vais essayer de rendre ça. Inna nashi'at al-layli hiya ashaddu. D'où le del, c'est vraiment parce que il y a deux dés en fait, contractés. Donc il faut vraiment que ça. Hiya ashaddu wa ta'an, le ta aussi. Le t amplifié, le ta. C'est un t mais amplifié. Et en plus, sans voyelle, ça donne une sonorité, mais vraiment, ça c'est pour dire. Les percutes données justement dans le cœur de Hachette Wat'an. Wat'an, c'est le point de frottement, si vous voulez, le point de contact. Hachette Wat'an. Wa aqwa muqila, le dalazien, langue. Et la lecture est plus aisée, mais pas que la lecture, la fluidité de la lecture prononcée, mais la lecture interprétée. On a plus accès à des sens, à des significats, à des ouvertures que par ailleurs, que les autres moments de la nuit, de la journée en fait. Voilà.
On parle de la prière là, on est d'accord, on parlait de la prière.
Oui, bon, je parlais du jeûne, comme quoi il favorise justement la lecture du Coran, et je parle, non, de la lecture du Coran, oui, s'il est fait, parce que le Coran, je peux le lire comme ça. Et je peux le lire lorsque je fais la prière. Donc, je n'ai pas une seule. Voilà. Mais là, ça parle de la lecture. Prière ou pas prière. La lecture du Coran, après un premier sommeil, elle a plus d'impact sur l'intériorité du croyant que dans les autres moments de la journée où vraiment il vit, il est injecté, il est mis en circulation dans l'ici-bas. Mais il faut le faire aussi, ça. C'est un combat aussi. C'est fait pour, justement. Cette spiritualité, c'est justement pour apporter une valeur ajoutée à notre environnement, à embellir la bonne gouvernance. Ce n'est pas un truc pour se délecter, déguster, savourer l'amour de Dieu. Mais c'est égoïste. Si on s'en tient à ça, c'est très égoïste. Justement, tout cet approvisionnement, c'est aussi pour aller vers l'autre et pour embellir la qualité de vie. Je ne sais pas si j'ai apporté quelques éléments à ta question, Patrice.
Voilà, je voulais savoir, dans le sourate la prière, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, 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 etc.
La première sourate, oui. Sur la fête, à l'ouverture du Coran.
Est-ce qu'il y a des similitudes avec nos prières de notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié?
Il y a beaucoup de similitudes. C'est pour ça que lorsque je parle avec les chrétiens, je leur dis la Fatiha, c'est notre Père à nous. C'est le Notre Père à nous. Pour approcher un peu. Parce qu'elle contient en concentré l'entièreté du Coran. Donc toutes les finalités, les valeurs cardinales du Coran, elles sont condensées dans cette ouverture du Coran, en fait. Donc c'est le génome, hein, l'ADN qui porte toutes les séquences, n'est-ce pas, chromosomiques, tout au long du Coran. Les sept versets contiennent, si vous voulez, en comprimé, les 6226 versets. Aucun verset ne sort, si vous voulez, du cadrage, la structure initiale de la sourate al-Fatiha.
Déjà, merci pour votre intervention, votre éloquence. J'avais une question un peu sur le lien entre donc, la signification du jeûne et puis la pratique aussi. Et puis aussi en lien avec le carême. Vous avez bien mis en avant le fait que la signification du jeûne, c'est le retour à la droiture, à la pitra, si j'ai bien compris.
Très, très bien.
Voilà. Mais par contre, dans le Coran, on parle aussi du fait que le jeûne, c'est bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est le fait de ne pas manger, de boire du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil.
Très bien.
Après, je voulais peut-être vous entendre sur c'est quelque chose qui est contextualisé. Alors juste pour faire un parallèle avec le carême, dans le carême, il y a des chrétiens orientaux, par exemple, qui peuvent avoir une pratique avec un jeûne qui peut être un jeûne similaire à celui des musulmans, par exemple, le fait de ne pas manger, de boire, ou avoir des ajustements dans la nourriture. Bon, ça, c'est ce qu'on connaît plus en Europe. Ce que je voulais savoir, c'était pour vous, par rapport à ce que dit le Coran sur le fait de ne pas manger, de boire, comment est-ce que vous interprétez ça, par exemple, dans des contextes. Je sais que ça convient bien, juste pour donner un exemple un peu trivial, ça convient bien à des pays où le jour et la nuit correspondent comme ceux du Moyen-Orient, par exemple, ou de l'Europe à la limite. Mais par exemple, on parle de musulmans, par exemple, qui peuvent habiter dans des pays du Nord. Il n'y en avait pas à l'époque, mais aujourd'hui, il y en a, par exemple, en Suède.
Ils sont de partout, ces musulmans.
Oui, au-delà du cercle polaire arctique, ça donne quoi.
Dans la pratique, comment est-ce que vous réconciliez ce que peut dire le Coran sur la pratique du jeûne et puis la signification. Alors, bon, j'imagine bien ce que vous allez me répondre, mais je voulais juste vous entendre un peu.
Ah, c'est bon, c'est pas la peine que j'y réponde. Je commence par la fin, comme les enfants. Est-ce que tu fais ça ou ça ou ça? Il choisit le dernier. Voilà, je vais commencer par.
Et même par... si, voilà, juste pour insister, c'est pas du tout. Je veux pas remettre en cause ça. Et au contraire,
non,
moi, je vois bien.
Non, mais je l'ai pas pris comme ça. Non, on a tout.
Par exemple, voilà. Qui peut avoir sur. Même du point de vue de la santé, quoi.
Honnêtement, je ne l'ai pas pris comme ça. Vous savez, moi, l'indicateur, lorsque je me sens un peu... C'est mes oreilles, lorsqu'elles rougissent. Elles n'ont pas rougi. Non, ne s'inquiétez pas. Il va prendre tout ça au sérieux, il va commencer à mes pieds,
à regarder mes oreilles. Je n'irai pas en Norvège.
En fait, l'aspect structure cadre, il n'y a pas plus facile. Contrairement à la prière, au pèlerinage, à la zakat, donc à l'impôt purificateur, le jeûne du Ramadan, c'est lui qui a été le plus doté d'explications pour ce qui est des détails, en fait. Et on n'a pas du tout besoin d'un droit rituel sur le jeûne. Il nous dit, vous avez, vous abstenez-vous de boire et manger et de faire commerce licite avec vos épouses. Ça aussi, vous avez omis de le dire, c'est important. entre l'aube, l'aurore, et le coucher du soleil. Pas le coucher du jour, non, du soleil. Le jour, c'est... Voilà. Et il dit, mais si vous êtes malade ou en voyage, vous avez cette dérogation, cette dispense. Temporaire ou prolongée, parce qu'il y a des maladies chroniques où il n'y a pas de possibilité de reporter. Parce que c'est toujours, la malade est toujours malade. Donc, il en est dispensé. Et il parle de fidya, c'est le Coran. Ce n'est pas des dérogations des fuqaha, c'est le Coran. « Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'ami masakin » Il dit, et en revanche, ceux qui le peuvent, hein, qui le peuvent, mais péniblement, eh ben, donc, après avoir parlé de voyage, de maladie, là, il nous parle ni voyage ni maladie. Vous le pouvez, mais péniblement. Eh ben, vous pouvez vous en acquitter, moyennant une expiation pécuniaire, voilà, à donner aux pauvres. Voilà. Chaque jour, un repas pour un pauvre. Chaque jour. Après, comment évaluer le repas, ça c'est un débat théologique. Un débat théologique. Je termine. Voilà. Donc par rapport aux dérogations. Mais, et en plus, le jeûne c'est quelque chose de très discret. Donc si la personne ne veut pas le faire, personne ne pourra l'y obliger. Parce que je peux. Pour esquiver le condiratant et la pression sociale, faire comme si je jeûne une fois chez moi, je ferme la porte et je me goinfre, je me casse le ventre, comme disent nos jeunes de quartier. Personne n'est au courant de ça. Mais si je le fais quand même, c'est que voilà, je le fais pour Dieu. Alors que j'ai la possibilité de le rendre. Personne n'a une possibilité de mes pieds et de n'est-ce pas? Voilà. L'idée que beaucoup de musulmans le font sous la pression, c'est une idée vraiment qui n'a aucun fondement. Vous savez que entre le pays d'où je viens et ici, rien que pour la prière, on a réformé les prières les temps, en fait, les plages horaires, la prière du matin et celle du coucher, pas du soleil, du jour. On a modifié. En Algérie, par exemple, on fait la première prière du matin lorsque le soleil est en deçà de l'horizon de 18 degrés. 18 degrés, n'est-ce pas ? Voilà. Ici, on le fait lorsque le soleil est en deçà de l'horizon de 12 degrés. Donc, on a gagné 6 degrés par rapport à cette proximité, justement, n'est-ce pas, au pays du Nord. Voilà. Oui, par rapport à ça. Parce que sinon, on aura, surtout pendant l'été, des nuits très longues. Des nuits très courtes, qu'est-ce que je dis? Très courtes. Et parfois, pas de nuit dans des régions. Et donc, comment les gens font pour jeûner? Il n'y a pas de nuit. Donc, ils jeûneront toute leur vie, les pauvres. Voilà. Bien sûr, donc, on les a alignés au point de des coordonnées de latitude et de la longitude, les pays les plus proches, mais qui s'inscrivent loin du pôle, n'est-ce pas, en question. Voilà. Et donc il rompt le jeûne, quand bien même le soleil est encore à l'horizon. Mm-hmm. Voilà, parce que c'est une spécificité. Comment il appelle ça les géographes là. Le lieu le plus habité, c'est au-delà du croissant, bien sûr, vers le nôtre, hein, tout ça, pour toute la Méditerranée, mais il y a la coutume, un mot très spécial pour parler de la région la plus habitée, voilà, du monde. Ça va me revenir. Voilà. Mais au-delà de cette région la plus habitée, il y a des dérogations qui ne posent aucun problème. la plus forte raison. Si dans une région comme la nôtre, lorsque le jeûne est pénible, je peux m'en dispenser moyennant une expiation, à plus forte raison, lorsque je vis dans un lieu excentré, c'est pas, et où le fonctionnement solaire, si tu veux, ne se fait pas comme dans la plupart des pays. Je ne sais pas si j'ai oublié une partie, non ? C'est bon ? Désolé.
Vous avez une question sur la rupture du jeûne.
La rupture du jeûne.
Comment se comportent les gens ? Il y a des règles ou pas ?
C'est-à-dire,
est-ce qu'ils se goinfrent ? Est-ce qu'ils... est-ce qu'il y a une règle ?
Vous savez, la règle, elle déborde le ramadan. Elle dépasse le ramadan. On est censé être dans une frugalité, même au-delà du ramadan. Le prophète nous dit qu'il n'y a pas un récipient, il n'y a pas pire récipient rempli que l'estomac. Mais c'est vrai. Ma mala'a abdun wi'a'an sharran min batnihi fa in kala wa labud. Et s'il est obligé de manger, qu'il dédie, qu'il partage son estomac en trois parties. Eh oui. Partie pour la nourriture, partie pour l'eau, et la troisième partie pour respirer. Ah. Mais nous, vous savez, on trouve toujours des subterfuges. Alors, lorsqu'on est à table, donc hein, il mange, et tu vois qu'il a rempli au-delà des trois tiers. Il n'aura même pas un endroit pour l'eau et pour la respiration. Et quand tu lui dis, c'est trop, tu crains pas, et tu dis, chacun son tiers. Là, si vous fréquentez les musulmans, vous allez très fréquemment avoir droit à ce genre de... À chacun son tiers, il te dit. Tu n'as pas mesuré les dimensions de mon estomac, donc tu sauras pas... Tu n'as pas le droit de me juger. Allez-y.
Et rapport charnel le soir, c'est possible ?
Ah oui. Il peut commencer dès le coucher de soir, avant de manger. Après. Il est vécu plus sur le mode d'exemple que sur le mode des explications. Mais les enfants, lorsqu'ils voient les adultes jeûner, toute leur enfance, ils la passent à s'interroger, à questionner. Mais ils voient déjà, ils ont une information, ils ont droit à une information factuelle. Voilà. Et contrairement, encore une fois, aux idées reçues, nous, les familles, faisons plus de pression sur eux pour pas qu'ils jeûnent prématurément, en fait, trop tôt. C'est parce que, voilà, moi j'entends dans des rencontres comme ça, mais les pauvres, ils sont pas bien portants, mais très jeunes, vous leur imposez, moi on n'impose rien du tout. Le contraire, on essaie de travailler en connivence avec les maîtresses et avec les anciens pour qu'ils les balancent en cas de jeûne non autorisé, parce que en fait, le jeûne, il commence à peu près à l'âge de la puberté, hein, à condition, la puberté en tant qu'indicateur de bien-portance, le corpulent. Mais si les deux ne vont pas dans le même... Si la puberté est plus précoce que la croissance du corps, eh ben, on reporte d'autant, n'est-ce pas, l'âge obligatoire du jeûne jusqu'à ce que le corps de l'enfant soit capable de jeûner. Et sinon, en règle générale, c'est la puberté. Voilà. La puberté, on bataille justement pour temporiser l'enfant et faire en sorte qu'il ne le fasse pas avant. Ça, c'est jeune, moi, je me rappelle. Après, je l'ai commencé très tard. Mais le jeune, très, très jeune, vraiment, très, très jeune. Et on ne demandait même pas à nos parents, nous, à l'époque. Jeune à la sauvage, l'autonome.
Alors, cette dimension spirituelle hein, qui était évidente dans ta présentation... sur le jeûne, parce qu'il y a l'écoute de la parole, il y a l'itinéraire spirituel. Est-ce qu'il est aussi évident, vécu par des musulmans qui n'ont pas fait de théologie, qui n'ont pas... est-ce qu'il prend des formes quelquefois trop ritualistes, trop et pas suffisamment spirituelles?
Oui, c'est le cas de le dire. Mmh. La preuve. Normalement, si le jeûne se faisait sur le mode spirituel, comme j'étais en train de l'expliquer, les musulmans auraient réduit de 2/3 leur consommation. Et les supermarchés auraient morflé pendant ce mois. Alors, il n'en est rien. Les carrefours, les géants, ils vous créent des rayons entiers halal, même les choses qui ne sont pas concernées par le halal. C'est pour le halal, c'est la viande, c'est tout. Eux, c'est le pois chiche halal.
C'est une affaire qui marche.
Une affaire qui marche, un pantalon halal. Devenu comme le cachet. Bon, le halal, halal, non. Halal, ce n'est pas à l'image du cachet. Halal, c'est la viande quand elle est vidée de son sang. Et basta. Et bien sûr, l'interdiction de la viande porcine. Il n'y a pas d'autre interdiction culinaire en islam. Mais comme les musulmans surconsomment pendant le mois, eh ben, les marchés surproposent. Ah ouais, je... Vas-y, excuse-toi.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ben moi, c'est vrai qu'en fait que le ramadan, il est associé essentiellement donc, en fait, à l'interdit de la fornication durant la journée, l'interdit de manger, l'interdiction aussi de boire. Mais est-ce que vous validez le fait qu'on ne doit pas, ou alors on doit réduire l'intensité de ses mensonges, l'intensité de ses jugements et aussi ne pas s'énerver, ou du moins tenter de ne pas s'énerver, mais c'est des choses aussi importantes que ne pas boire et ne pas manger.
Exactement. Et à plus forte raison, si Dieu interdit les choses qui par ailleurs étaient illicites, les choses qui étaient déjà illicites,
exactement.
Elles doivent être d'autant plus interdites pendant le ramadan.
J'ai le sentiment qu'elles sont oubliées.
Ah oui, moi je suis d'accord avec vous. Mais tellement oubliées que le prophète lui-même s'est senti obligé de le rappeler. Un hadith formidable dans lequel il dit « Man lam yada qawl az-zuri wal 'amal bihi fa laysa lillahi hajatun an yada'a ta'ama wa sharaba » Celui qui ne s'abstient pas du mensonge, parler et pratiquer, parce que le mensonge, il n'y a pas que le mensonge parlé, le mensonge pratiqué, eh bien, Dieu n'a nullement besoin qu'il s'abstient de manger et de boire. On est
tout à fait... La plus grande discipline, c'est pas tant de pas manger, c'est de pas s'énerver, de ne pas mentir.
Si tu vas assister à des bagarres intéressantes, voilà, tu viens dans mon bled. Hein,
et je vous ai dit dans le mien aussi.
Hein. Voilà. au moment d'acheter la zlabia, c'est la pâtisserie orientale. Eh ben, c'est voilà, pour une place dans la chaîne. Voilà. On passe ici à une bagarre en bonne et due forme, hein, vraiment. C'est humain, c'est surtout aussi le fait de passer à côté de la spiritualité du jeûne et de le ritualiser, n'est-ce pas, de l'assécher de sa sueur, de sa quintessence.
Est-ce qu'on n'est pas aussi, en fait, dans, entre guillemets, pardonnez-moi pour le terme, une sorte de matérialité du ramadan, vous voyez, de ce qui se voit, de ce qui peut se faire de manière physique et non pas de l'invisible?
Oui, on opte pour le feignant que nous sommes, on opte pour le plus facile, on est les partisans du moindre effort, parce que s'abstenir de manger, de boire et de commerce licite avec son épouse, c'est plus facile que de retenir sa langue. N'est-ce pas ? On peut plus contrôler ce qui rentre dans nos bouches que ce qui en sort, en fait. Ah, mais je suis pas loin de Jésus.
Stéphanie.
Allez-y.
Alors, moi, je voudrais chez les catholiques, qui justement, il y a beaucoup moins, voire plus du tout de rituels, notamment sur le fait de se priver de nourriture. Que leur diriez-vous? Dans le sens où on a déjà eu des débats entre catholiques de « on est en plein carême, un vendredi de carême, et on apporte un gâteau au chocolat parce qu'en fait, on le partage ». Et aujourd'hui, le fait que dans le carême, en fait, c'est faire des efforts, quels qu'ils soient, et pas que de nourriture, on en oublie aussi que la privation de nourriture amène en fait aussi à un lien, même plus. Enfin, en tout cas, c'est pas qu'on se rapproche de Dieu, mais le fait de se priver de nourriture, d'avoir faim, très clairement, il y a quand même aussi une vertu dedans. Et je pense que chez les catholiques, on l'oublie en se disant bah, c'est pas grave, je vais faire des efforts avec mon prochain, je vais être gentil, je vais faire ci, je vais faire ça. Et on oublie que le jeûne physique a quand même aussi des vertus, comme vous l'avez dit, spirituelles. Donc là, je comprends ce qu'on dit par rapport au ramadan et les excès du rituel, mais à l'inverse, l'absence de rituel dans le carême, il y a aussi peut-être un aspect un peu néfaste là-dedans. Alors, j'aurais voulu avoir votre avis sur le carême chrétien et la façon dont il est vécu aujourd'hui.
J'ose pas trop fourrer mon nez dans la pratique chrétienne, sinon ça risque d'être pris pour du braconnage dans la maison de l'autre. Mais c'est vrai, il y a lieu de faire des reparamétrages, mais d'un côté comme dans l'autre, bien sûr. Chez nous, il faut garder cette ritualité, c'est important, c'est très important. Voilà, parce que toute l'année on mange, c'est un moment justement pour contrecarrer un peu la tyrannie des hormones et ces addictions culinaires. Je parle de moi surtout. M'impose pas, me violente pas par le jeûne, mais j'ai tendance à la couler douce en fait. Une gourmandise par là, une gourmandise par là. Et donc, en fin de journée, je me retrouve avec 1000 kilocalories de trop. Voilà. Et avec tout ce que cela suppose comme maladie, pas forcément les grandes maladies, mais le simple fait de grossir, de plus pouvoir bouger, d'être moins disponible pour l'autre, de passer la moitié du temps à manger, l'autre à sortir ce qu'on a mangé. Voilà. Mais c'est important cet aspect, il ne faut vraiment pas le minimiser. Voilà. C'est très important, mais en même temps dire aux musulmans en fait, le rencontre avec les chrétiens, pas que sur le jeûne, même sur la prière, sur la manière de vivre leur spiritualité, leur apporte beaucoup en fait. Ça leur rappelle des fondamentaux que eux ils ont oubliés par ritualisme, par voilà.
Inversement, on a eu un beau témoignage, Jean-Marie. J'ai fait un peu de publicité à la messe, il y a 8 jours. Hein. Il y a 10 jours sur un journaliste de Bayard qui est venu à l'ICM, à l'ISTR, pour une formation de 3 jours avec les journalistes de Bayard. Et il m'annonçait qu'il allait faire un jeûne de 8 jours, hein, total, hein, dans une abbaye. Et il s'y préparait. Il s'y préparait et certains des autres journalistes se moquaient de lui autour de la belle pizza au restaurant. Et je vous en ai fait de la publicité. Moi-même, je n'ai pas pris le temps de le lire, mais Jean-Marie, tu l'as lu.
Ah oui, oui. Il y a carême ou pas carême, hein, oui. Parce qu'effectivement, il s'est fait baptiser peu de temps avant.
Oui, c'est très récent. Oui, oui.
Et il a passé dans une abbaye de loi, dans la loi, entre...
Pradine.
Mais c'est impressionnant. Alors, un petit peu de pub au passage, c'est dans la croix l'hebdo de dimanche... fin de semaine. Ah, ça vaut le coup. Et pendant 8 jours, donc heure par heure, il raconte comment il a vécu toute cette ascèse, l'ascèse physique totale. Hein, et spirituel, c'est passionnant. Hein. Il faut être vraiment un saint. Enfin, comment sont les saints exactement, mais pour arriver à tenir ça et physiquement et spirituellement. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Jamais on pourrait.
Il avait des réserves, je précise.
Ah, il avait peut-être des réserves.
Il avait quelques réserves, oui, oui.
Oui.
Mais il n'était pas tout seul, non. Et puis il y avait une véritable volonté, une de découverte spirituelle, quoi, hein, d'aventure spirituelle, alors guidée par des démoniales.
C'était un groupe de retraitants, dans un groupe, et ils échangeaient leur vécu de cette semaine-là. C'est passionnant, c'est passionnant comme groupe. Pas sur le modèle, parce que c'est pas forcément un modèle, mais comme démarche, vraiment la démarche de fond, et pas forcément dans le carême, parce que ça, on peut le faire à tout rang de l'année, forcément dans le carême, si on veut.
Est-ce que dans le Coran, on a des versets qui parlent de Aïssa, de Jésus, qui jeûne?
Le prophète.
Aïssa qui jeûne, non, mais de Marie qui jeûne, oui.
Oui.
Marie qui jeûne.
Oui.
Ah oui.
Marie, oui. Oui.
Ah oui.
Marie qui jeûne. Qui jeûne, et surtout de parole. Parce qu'on essaie. Encore une fois.
C'est pas
oui. Oui, parce que lorsqu'elle a accouché de Jésus, paix et salut sur lui, les gens étaient venus, ils ont afflué vers elle pour lui dire comment se fait-il de pieuse famille qu'elle fut et qu'elle se permet un accouchement qui sous-entendait une relation extra-conjugale. Voilà. Et avant que Jésus ne prenne la parole, Dieu lui semble, lui ordonne de ne pas répondre. Et elle dit souvent, Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Inni nadartu, donc je vous, à Dieu, un jeûne, sans, Inni nadartu lirrahmani sawma. Sawm, c'est le jeûne. Vous avez dû l'entendre chez les musulmans. Le jeûne, c'est as-sawm. C'est le fait de se priver de quelque chose. Et dans le jeûne des musulmans, c'est de boire et de manger, mais ça peut être une privation de parole aussi. Et donc, je n'adresse la parole aujourd'hui à personne, jusqu'à ce que, bien sûr, Jésus prenne la parole pour la disculper et l'innocenter. En étant bébé, bien sûr. Mais sinon, individuellement, non. Mais dans le verset lui-même qui prescrit le jeûne aux musulmans, il fait référence aux prédécesseurs. Kutiba alaykum as-siyamu. Certes, on a prescrit pour vous le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Voilà. C'est pas uniquement à l'adresse de Jésus ou des prophètes, mais à travers eux, à l'adresse des communautés. Et ça ressemble à une évidence. Parce que si le jeune répond à des besoins impérieux chez l'homme, hein, pour équilibrer un peu sa spiritualité, pour desserrer un peu l'étau des hormones et de la chair sur ce joyau spirituel, ben l'homme, il a été toujours comme ça. L'arabe ou l'araméen ou le palestinien ou le juif, voilà. L'homme, c'est l'être créé par Dieu, et donc on est tous semblables, et on a tous les mêmes besoins, et par conséquent, ces moyens de spiritualiser la chair sont les mêmes, peut-être à des divers niveaux de rigueur, si vous voulez, mais toutes ces traditions ont dû avoir leur jeûne, leur prière, leur aumône, leur... En tout cas, le Coran, systématiquement, il fait mention aux gens du livre avant nous, lorsqu'il parle de jeûne, lorsqu'il parle de prière, lorsqu'il parle de zakat aussi. Voilà. Et même lorsqu'il parle de pèlerinage. Hein, c'est depuis Abraham, c'est lui-même qui a construit le temple, le sanctuaire de la Mecque.
Merci beaucoup, Abdeslam, de ce partage spirituel.
Merci à vous. Merci pour votre patience.
Et donc maintenant, nous allons commencer notre jeûne de la parole. On a un jeûne de la parole le vendredi saint à la fin de la célébration, où on rentre tous dans le silence, tu sais, le vendredi saint. Oui.
Le vendredi du 8. Le 8.
Et donc c'est le vendredi qui précède Pâques.